Vous m'excuserez pour les erreurs de français, mais étant néerlandophone, il se pourrait que je me perde dans les mots de temps en temps, et c'est aussi la raison pour laquelle je me désire d'un texte. Sans doute, vous êtes-vous étonné en lisant le nom de notre organisation. En fait, le nom de Walking Egg est le résultat d'une collaboration initiée en 1997 entre un gynécologue, le professeur Willem Ombelet, et un artiste, Koen van Mechelen. D'où ce nom énigmatique, référant à un œuf en verre avec des petites pattes et donné lors d'une revue internationale, comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est une métaphore de l'œuf qui se promène n'importe où dans le monde, sans aucune distinction de race, couleur, frontière, et qui décide d'être fécondé ou de ne pas être fécondé. Au sein de ESHRE, ESHRE, c'est la European Society for Human Reproduction and Embryology, c'est assez connu parmi les gynécologues, le professeur Ombelet était le coordinateur d'un Special Task Force qui ciblait les pays en voie de développement et l'infertilité. En décembre 2007, avec la collaboration de l'OMS, un projet scientifico-artisanal de cette task force est né à Arusha, en Tanzanie, où près de 40 experts, médecins, sociologues, économes, anthropologues, ont discuté d'une approche commune et multidisciplinaire dans la lutte contre l'infertilité et ses conséquences. Le nom de Walking Egg a été donné donc à ce projet Arusha, et l'organisation de Walking Egg a été créée pour réaliser cette mission, en visant notamment l'accès aux soins de fertilité. Sans doute, il y en a parmi vous qui ont des enfants, ou d'autres qui ont choisi de ne pas en avoir, peut-être certaines qui voulaient des enfants, mais n'ont jamais eu de la chance d'en avoir, et finalement d'autres qui ont été obligés de faire appel à la science médicale pour obtenir une grossesse. La fertilité et le souhait d'un enfant est un problème de tous les temps. Moi, je me souviens de mes humanités, on était obligés de retenir l'histoire de la Vénus de Willendorf, symbole de fertilité dans l'Antiquité. On estime que mondialement, 95% des gens ont un souhait d'enfant, ce qui fait que nous sommes déjà plus que 7 milliards et qu'il est prévisible qu'on sera à 10, peut-être bien 11 milliards vers 2100. J'y reviendrai. Mais revenons donc sur le problème de l'infertilité. Cette carte nocturne du monde nous donne une idée des endroits où il y a de l'électricité, ce qui coïncide plus ou moins avec le nombre de centres FIV. Il est clair qu'il y a une nette discordance entre les pays occidentaux et le reste du monde. Comment interpréter la situation en Afrique? On estime que le nombre de gens qui ont accès aux soins de fertilité est de moins de 2%. Ceux-ci peuvent se rendre à l'un des 131 centres sur le continent. Et pour comparaison, en Europe, il y a plus de 1635 centres ou 38 centres, et leur nombre réel est sans doute nettement plus élevé. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'accessibilité aux soins de FIV en Afrique et dans les autres pays en voie de développement est une situation navrante. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Y a-t-il vraiment un problème? Mondialement, on estime que 8 à 12% des couples sont confrontés avec une infertilité, parmi lesquels la plus grande partie habite dans les pays en voie de développement. Selon les dernières études de l'OMS, on parle de 186 millions de personnes qui doivent faire face à une infertilité involontaire. Et là, je parle bien sans la Chine. On pourrait dire qu'il y a d'autres priorités à avoir, le sida et la malaria, ou on pourrait dire que l'on n'en meurt pas. La communauté internationale ne considère certainement pas ce problème comme une priorité. Mais si on doit attendre d'abord d'avoir résolu les autres problèmes, les couples infertiles ne seront jamais aidés. Pourtant, les études ont démontré que les conséquences de l'infertilité ont un impact énorme sur la vie sociale des gens, surtout dans les sociétés en développement ou transitionnelles. Et voilà, ici vous voyez donc bien les conséquences réelles, stigmatisation, violence, polygamie, dépression, jusqu'à suicide. Et encore un autre exemple, un élément que la majorité des gens ignorent, c'est le fait que le risque sida chez les femmes infertiles et sans enfants est trois fois plus élevé que le normal. Simplement parce que ces femmes, elles vont faire du shopping pour obtenir un enfant. Ce qui nous amène aux raisons principales de l'infertilité qui vous sont suffisamment connues. Voilà en bref une petite analyse du problème de l'infertilité féminine et masculine et sans aller trop loin donc, dans ces détails. Et dans les pays en voie de développement, les causes de l'infertilité sont très souvent liées aux maladies sexuellement transmissibles, les abortions non sécurisées et les accouchements dans les conditions non hygiéniques. Après tout ce que je viens de vous expliquer, il est clair que l'infertilité est un problème qui a donc une répercussion énorme sur la vie des femmes et ou des couples qui y sont confrontés. Depuis quelques décennies, la communauté internationale s'est penchée à plusieurs reprises là-dessus. Elle a fait des recommandations, comme vous pouvez voir, afin de protéger les intérêts des femmes ou couples infertiles. Mais malgré tout, on n'arrive pas à transcender cette réalité et le discours se limite au mot « creux ». Ceci est parfaitement représenté dans les fonds disponibles ou plutôt non disponibles. Vous voyez, les chiffres sont suffisamment éloquents. Ben, simplement dit, si on prend Nicole, elle souffre de sida, elle bénéficie d'un programme international. Il y a Sophie, elle est enceinte, elle bénéficie d'un programme international. Chantal vient d'accoucher, et ben là, il y a aussi un programme international. Nathalie, elle souhaite un avortement sécurisé, elle aussi peut bénéficier d'un programme international. Et Marie, elle veut, mais ne peut avoir un enfant, eh bien, je vous défie de lui trouver une solution. Et pourtant, il s'agit d'un droit élémentaire aux soins et non du droit de l'enfant. Pour mieux comprendre les raisons dont je vous ai parlé, je vous propose les diapos suivantes. Pourquoi existe-t-il une aversion quasi viscérale quant au programme AMP, surtout quand il vise les pays en voie de développement? Il existe plusieurs raisons, pour ne pas dire des préjugés, vis-à-vis des pays en voie de développement. Pourquoi devrait-on s'en inquiéter? L'infertilité est inexistante. Dans ces pays, l'infertilité n'est pas un problème sérieux pour les gens dans les pays en voie de développement. L'infertilité, c'est un problème personnel et non un problème qui concerne la santé publique. Il y a la surpopulation mondiale qui est un problème réel. Il y a la solution pour l'infertilité, mais les traitements sont excessivement chers. Et mettons donc le focus sur les deux derniers points. Premièrement, donc, la surpopulation mondiale. C'est vrai, le nombre d'hommes dans le monde augmentera encore les prochaines décennies. Mais faut-il vraiment s'en inquiéter? Discuter sur le fond du problème m'amènerait trop loin, mais il est clair qu'il y a des siècles, la population mondiale était bien moindre. En 10 000 avant le Christ, on estime son nombre vers 10 millions de personnes. En 1800, on atteint le cap de 1 milliard de personnes et en 2012, on était déjà à 7 milliards. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, selon la source consultée, on sera 9 milliards en 2050 et 10 milliards en 2100. Mais faut-il vraiment paniquer? Alors là, je dirais non, halte à la négative, virons de 180 degrés et regardons la vie en rose avec un optimisme africain bien connu. Les chiffres suivants démontrent déjà une amélioration évidente. le nombre mondial moyen d'enfants par femme en 1963 était 5. Aujourd'hui, on parle de 2,2 enfants par femme. Il existe bien des multiples mécanismes pour faire réduire le nombre de gens au niveau mondial, et on en a parlé déjà ce matin aussi. Et donc récemment, au mois de septembre, au sommet des Nations Unies consacré à l'adoption du programme de développement pour l'après 2015, les 193 dirigeants du monde se sont engagés sur les 17 objectifs pour réaliser trois choses extraordinaires dans les 15 prochaines années. La première est mettre fin à l'extrême pauvreté. Ça aussi a été remarqué ce matin. Et les deux autres, c'est lutter contre les inégalités et l'injustice et résoudre le changement climatique. Impossible de vous en parler ici plus longuement, mais il est clair que l'Occident a tout intérêt, pour ne pas dire obligation, de changer son style de vie. Nous devons réduire notre impact. Prenons la lutte contre la pauvreté. Contrairement à ce qu'on croit, la pauvreté mondiale a déjà nettement baissé, et très souvent, ceci est le fruit d'une lutte contre l'ignorance. Et l'ignorance résulte très souvent d'un manque d'éducation, ce qui est démontré ici par le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans comparé au pourcentage de femmes adultes érudites. Prenons aussi l'exemple du Bangladesh. 50 à 150 millions d'habitants dans 50 ans. C'est un des pays les plus peuplés. Mais le gouvernement s'est engagé à prendre action, le Government Family Planning Service. Dans chaque village, il existe un programme de contraception, mais apparemment, moins les femmes sont éduquées, plus d'énergie doit être apportée pour les convaincre. Néanmoins, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2072, 7 à 8 enfants avec une espérance de vie de 50 ans, et en 2015, 2,2 enfants avec une espérance de vie de 70 ans. Et voici, c'est un autre exemple dans trois diapositives, la corrélation entre donc la pauvreté et le nombre d'enfants par femme durant les deux derniers siècles. Là, vous pouvez voir que ici, plus que les gens gagnent, moins d'enfants qu'ils ont. Et malheureusement, comme a dit déjà ce matin le docteur Rosenthal, la situation reste inquiétante en Afrique subsaharienne. De façon générale, chaque pays dont le score a monté sur l'échelle des pays à faible ou bas revenu, pour devenir un pays à revenu moyen, ce pays voit changer sa pyramide de population. La base devient mince alors que le ventre devient ou reste significativement large. Conclusion, pour moi, la croissance de la population mondiale n'est pas déterminée par un taux de naissance élevé, mais plutôt par une espérance de vie plus élevée. La discussion sur la population mondiale nous amène à réfléchir sur l'intérêt ou le non-intérêt de la FIF ou d'autres méthodes AMP, surtout dans les pays en voie de développement. Faut-il ajouter encore des enfants, des cohabitants à un monde déjà très peuplé? Mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Regardons un peu les chiffres. Depuis 1978 et jusqu'en 2012, on estime que le nombre d'enfants nés par la méthode FIF est de plus ou moins 5 millions, donc 147 000 enfants par an, plus ou moins. Mondialement, sur 130 millions d'enfants nés chaque année, ces 147 000 ont été procréés par la méthode FIF. On parle donc de 0,1% d'enfants FIF par an. Moi, je dirais que c'est bien une quantité négligeable en comparaison avec le reste, mais un monde de différence pour les femmes ou les couples concernés. Ce qui nous amène directement au deuxième point. La solution à l'infertilité est trop chère. Effectivement, si une femme ou un couple souhaite se faire traiter, le coût de traitement atteint vite quelques milliers de dollars ou euros. Ici, vous voyez le coût approximatif des services de technologie de la reproduction assistée dans les différents pays. Donc, les solutions existent, même en Afrique, mais sont réservées aux épiphiaux, autrement dit, les plus riches. Voilà, ça c'est par exemple le site d'un centre FIF privé en Ouganda. Et ici, ça c'est un site en Amérique. Autrement dit, la joie de l'enfant dépend de votre portefeuille. Alors que nous, nous préférons dire que la joie apportée par l'enfant n'est pas le privilège de l'Occident. Mais existe-t-il une solution magique ? Magique, non. Mais nous avons une solution abordable, fiable et de haute qualité. Et en fait, je suis assez fier de vous présenter en bref notre méthode qui se fait en plusieurs steps ou phases, si vous voulez. D'abord, vous avez donc le setup et l'équilibration. C'est donc, il existe donc deux tubes. Il y a un tube avec l'acide citrique, le bicarbonate de soude et un peu d'eau. Et ça donne donc la production de dioxyde de carbone. Alors, c'est avec un autre tube, petit tuyau plutôt, c'est connecté avec l'autre tube où il y a le culture medium. Et ça donne ça met le culture medium en équilibre en ce qui concerne le pH. Puis, phase 2, c'est l'insémination. On inserte donc une seule ovocyte par tube avec 1000 à 5000 spermatozoïdes bien motiles. Phase 3, on contrôle chaque jour la fertilisation à travers donc, le tube. C'est comme ça qu'on peut suivre. Et tout se fait donc dans un environnement bien fermé. Et puis, le dernier step ou phase, c'est la visualisation de l'embryon. Et on fait donc le transfert de l'embryon troisième ou cinquième jour. Et la preuve est là. En 2012, nous avons pu provoquer la naissance d'un garçon sain et sauf. Et depuis lors, 40 enfants sont nés, tous avec un bon point et en bonne santé. Notre méthode ne demande pas un environnement à haute exigence. Un labo de FIV en Belgique ou en France coûte facilement entre 1,5 et 3 millions d'euros, alors que le bâtiment total pour un centre Walking Egg s'estime à 85 000 euros, là, son bâtiment, bien entendu. Un cycle de prise en charge coûtera aux patients plus ou moins 400 euros, sans avoir compté les frais et les salaires locaux. Inutile de vous dire que ceci crée beaucoup de possibilités pour l'Afrique ou pour les pays en voie de développement en général. Et voici, ça c'est l'équipe qui a mis à point cette méthode. C'est le professeur Van Blercombe de l'Amérique, le professeur Ombelet, c'est mon chef de Belgique, et le professeur Hasser de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui souhaitent approfondir, la méthode a été méticuleusement décrite dans RBM Online. Vous pouvez le consulter si vous voulez. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. En mars 2014, le professeur Ombelet et moi, nous étions invités au Ghana à l'occasion d'un congrès sur l'infertilité et les couples sans enfants. Et comme vous le savez, c'est un sujet très délicat pour les Africains et en général, les gens le gardent comme un secret honteux. Mais ici, on avait devant nous 1500 personnes qui osaient témoigner en public d'un problème qui domine toute leur vie. Et suite à ce congrès, les négociations avec les responsables de l'Église pentecôtiste nous ont mené à un partenariat avec un de leurs hôpitaux à Accra. Et entre parenthèses, nous sommes entièrement neutres, nous cherchons avant tout à collaborer avec des partenaires motivés, engagés et fiables. Un an après, en février 2015, ils ont commencé à réaménager une maison à côté de l'hôpital, transformée en un magnifique centre de fertilité. En avril et novembre 2015, deux missions ont été accomplies dans ce centre et là, la route était bien pavée pour la suite. On avait bien pu y pratiquer des fécondations, ça oui, ça on a réussi, mais pas encore des grossesses. Au mois de mai ou juin prochainement, notre équipe rentrera sur Accra en espérant pouvoir mettre la première grossesse FIF en Afrique avec notre méthode, bien entendu. On a donc maintenant un beau centre, mais sans personnel bien entraîné, c'est comme vous aviez un Rolls-Royce sans essence dans le désert. Nous avons alors décidé d'inviter une équipe ghanéenne à Genk pour les initier au secret de notre système FIF. La formation est une partie essentielle de notre projet, sans laquelle rien n'est durable et ne pourra prendre de l'ampleur. Ceci fait qu'on connaît bien nos partenaires et comme nous avons pu le constater pendant les deux missions en avril et novembre dernier, cela améliore beaucoup la collaboration. Alors, l'équipe est là, la méthode a prouvé sa solidité, les demandes des patients ou des pays nous dépassent de loin, la marche à suivre est claire. Chaque demande de subsides, de fonds, bref, d'aide financière semble être très difficile et nous avons frappé à la porte de nombreuses organisations et autorités, mais en vain. Malgré cela, on ne se laisse pas décourager, car nous sommes guidés par l'appel désespéré des nombreuses femmes et couples infertiles partout dans le monde. Et pour finir, c'est Barack Obama qui a dit « Le changement ne viendra pas si nous l'attendons de quelqu'un d'autre ou à un autre moment. Nous sommes ceux que nous attendions. Nous sommes le changement que nous cherchions. » Je vous remercie infiniment de votre attention.